France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour. Un nouveau palier de violence franchi en Irak. Au moins 13 manifestants ont été tués ce matin dans le sud du pays. Donald Trump affiche son soutien aux manifestants de Hong Kong. Il menace de suspendre le statut économique spécial accordé à Washington, à l'ancienne colonie britannique, colère de Pékin. Dans l'actualité française, le procès en appel du cardinal Barbarin s'est ouvert ce matin à Lyon. Il avait été condamné en mars dernier pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse sur de jeunes garçons. Le primat des Gaules reconnaît des erreurs, mais il conteste sa culpabilité. Invité de ce journal, le politologue Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Polling Vox. Nous parlerons avec lui de la stratégie du gouvernement à l'approche de la grève générale du 5 décembre. 12h55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert.
On les a en partie redécouverts il y a un an au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais on est loin de tout savoir d'eux. Portrait d'une jeunesse qui a choisi de rester, de faire sa vie dans les campagnes en déclin. Ce sera donc dans une vingtaine de minutes avec notre invité, le sociologue Benoît Coquart.
À tout à l'heure. L'escalade du mouvement de contestation en Irak. Ce matin, au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre à Nasiriyah, dans le sud du pays. De nouvelles tensions qui surviennent au lendemain de l'incendie du consulat iranien de Najaf par une centaine de manifestants, criant notamment « Iran dehors » et « Victoire à l'Irak ». Le point avec Omar Ouamad.
La contestation, qui a déjà fait plus de 300 morts en moins de 2 mois, a atteint mercredi un niveau inédit. Des centaines de manifestants ont mis le feu au consulat d'Iran à Najaf, ville sainte de l'islam chiite, où chaque année des millions d'Iraniens viennent en pèlerinage. Une foule très jeune s'en est pris à la représentation diplomatique en criant des slogans hostiles à la République des Mollahs, accusés d'avoir annexé toutes les institutions de l'Irak. Et celui qui incarne cette mainmise s'appelle Qassem Soleimani, le général iranien en charge des opérations extérieures de l'armée idéologique de la République islamique. C'est lui qui tire les ficelles en Irak. Et les manifestants l'ont bien compris. Ils sont dans la rue depuis le 1er octobre et ils réclament la fin de cette tutelle iranienne et un renouvellement total de la classe politique qu'ils jugent corrompue. Selon des chiffres officiels, 410 milliards d'euros ont été détournés ces 15 dernières années, soit 2 fois le PIB de l'Irak. C'est la principale raison de la colère des manifestants qui ont paralysé le sud du pays, foyer de la contestation où les écoles sont fermées depuis des semaines.
Donald Trump s'engage en faveur de Hong Kong. Le président américain vient de promulguer une loi soutenant les manifestations pro-démocratie. Cette résolution menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés. Colère immédiate de Pékin qui qualifie le texte d'abomination absolue. L'ambassadeur américain a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères. Décryptage de Nathanaël Charbonnier.
Il a hésité, il a même attendu quelques jours, mais au final, Donald Trump a signé le texte en émettant toutefois quelques réserves. Ce texte prévoit que les États-Unis vérifieront une fois par an l'autonomie de Hong Kong. Il prévoit aussi des sanctions contre ceux qui seraient accusés de violation des droits humains. Il prévoit encore l'interdiction d'exportation de certains équipements anti-émeutes. Une signature qui n'a toutefois pas été une évidence pour le président américain, coincé entre d'un côté des élus américains déterminés et dont Donald Trump a besoin d'empêcher qu'il ait dans son affaire d'impeachment et de l'autre les autorités chinoises avec lesquelles il tente d'aboutir à un accord commercial. Aussitôt rendue publique, cette signature a engendré les protestations attendues de Pékin avec menaces à la clé, mais là encore, il s'agit pour la diplomatie du président chinois de ménager son turbulent adversaire américain, car si l'accord commercial est attendu par Donald Trump, il est tout autant souhaité par la Chine. Conséquence, on crie, on gesticule de tous les côtés, mais il faudra attendre encore un peu pour voir sur le terrain la véritable incidence de la signature du décret américain.
Répression également en Égypte. Depuis l'accession au pouvoir d'Abdel Fattah el-Sissi en 2013, le nombre de poursuites engagées a triplé. Le régime égyptien s'appuie sur l'état d'urgence et le bureau du procureur général de la Sûreté générale qui bafoue systématiquement les droits des personnes interpellées, le plus souvent sans aucune raison valable. C'est ce qui ressort d'un rapport d'Amnesty International dévoilé aujourd'hui, Valérie Crova.
Ce ne sont que 138 cas sur des dizaines de milliers d'autres. 138 personnes dont Amnesty International a pu recueillir les témoignages. Des hommes et des femmes arrêtés en raison de leurs activités de défenseurs des droits de l'homme ou pour avoir participé à des manifestations. Katia Roux, chargée du plaidoyer liberté à Amnesty International France.
Le bureau du procureur général se rend complice de violations de droits humains. Et par violations de droits humains, on entend en particulier des disparitions forcées, des détention arbitraire, prolongée, et l'usage de la torture et de mauvais traitements en prison.
La torture, Eman Salah a du mal à en parler. Ce militant des droits de l'homme a été arrêté à 9 reprises et détenu 14 mois au total. La dernière fois, c'était en 2013, après avoir été accusé sans preuve d'avoir rejoint un groupe terroriste.
J'ai été torturé, fouetté, électrocuté et mis à l'isolement. Parfois, il y a même eu des sévices sexuels. L'Égypte a connu une succession de dictature, mais celle du président Al-Sisi est la pire d'entre toutes.
Eman se désole que la France ne fasse pas davantage pression sur le président égyptien. Si vous ne soutenez pas la dictature, aidez au moins les gens qui vivent à l'intérieur, lance-t-il à l'adresse des autorités françaises.
Aux États-Unis, la cigarette électronique au cœur d'une polémique qui dure depuis plusieurs mois. Près de 2000 personnes sont tombées malades. Il y a eu depuis le début de l'été 47 morts, sans doute parce que les consommateurs plaçaient dans leur e-cigarette des recharges au cannabis vendues au marché noir. D'autre part, l'entreprise Juul, le numéro 1 du secteur, est poursuivie en justice par plusieurs États ou villes, dont la capitale Washington DC. Sur place, la correspondance de Grégory Phillips.
Le procureur général de Washington affirme que Juul, le numéro 1 de la cigarette électronique aux États-Unis, a entraîné une nouvelle génération dans l'addiction à la nicotine. Il parle aussi de pratiques illégales pour inciter les plus jeunes à fumer, design et parfums conçus pour eux, opérations marketing à destination des moins de 18 ans, appel à des influenceurs qui étaient payés pour vanter les mérites de cette e-cigarette sur les réseaux sociaux. Après l'État de New York, après la Californie, c'est donc la capitale qui s'en prend à Juul, déjà dans le collimateur de l'Agence fédérale de protection du consommateur. Même la Maison-Blanche s'en mêle. L'administration envisage de repousser l'âge minimum pour acheter des cigarettes électroniques de 18 à 21 ans. Comme pour l'alcool, il pourrait aussi y avoir une interdiction des cigarettes aromatisées, particulièrement appréciées des plus jeunes. Mais le lobby du tabac est puissant et pour l'instant, les autorités temporisent.
La Turquie va rapatrier en France début décembre 11 détenus français membres du groupe État islamique. L'information est révélée par des médias turcs citant le ministre de l'Intérieur. Celui-ci n'a pas précisé s'il s'agissait d'ex-combattants ou de membres de leur famille les ayant accompagnés en zone irako-syrienne. La Turquie qui critique de longue date le refus de ses alliés européens, dont la France, de prendre en charge leurs ressortissants partis en Irak et en Syrie, a entamé à la mi-novembre un programme de renvoi des activistes étrangers de l'État islamique et de leurs familles détenues sur son sol. Dans l'actualité française, le procès en appel du cardinal Barbarin s'est ouvert ce matin à Lyon. Il avait été condamné en mars dernier pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse sur de jeunes garçons. Le primat des Gaules reconnaît des erreurs, mais il conteste sa culpabilité. Ambiance sur place avec Christophe Vincent.
Le visage fermé, Philippe Barbarin traverse la salle des pas perdus sans dire un mot. Ses avocats lui fraient un chemin dans une forêt de micros et caméras, d'où l'agacement de maître André Soulier.
Les corbeaux volent bas parfois, on verra.
Les plaignants sont partagés, les uns affichent leur sérénité, d'autres comme Laurent Duverger s'avouent très en colère.
Ça aurait été grand qu'un prince de l'église assume un peu les fautes qui ont été commises dans son diocèse, fautes dont il était au courant en plus depuis longtemps. Là, aujourd'hui se retrouver là, oui, il y a une forme d'indignation. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête, hein. Il faut que ces gens prennent la responsabilité. Il a demandé pardon pour ce qui s'était passé, il est revenu dessus et puis maintenant on nous dit oui, moi je suis du côté des victimes, mais pas trop.
Les victimes réclament toujours la condamnation du cardinal, comme les premiers plaignants Alexandre Aizé et François Deveau.
La première instance a été assez claire au niveau des justifications. Nous, on ne comprendrait pas pourquoi tout ça serait différent.
Que le guide spirituel vienne faire valoir une prescription en cours d'appel, c'est un naufrage spirituel en fait.
Interrogé, Philippe Barbarin tient le même propos qu'en janvier. À un moment, j'ai manqué de courage, mais je ne vois pas de quoi je suis coupable.
Le procès des laboratoires Servier sur le scandale du Mediator se poursuit au tribunal correctionnel de Paris. L'action publique s'est éteinte concernant l'ancien patron des laboratoires, Jacques Servier, décédé. Et le tribunal entend aujourd'hui Jean-Philippe Zeta, l'ancien numéro 2 du groupe, poursuivi pour tromperie. Sur place, le compte-rendu d'audience avec Florence Turm.
En fait, nous étions 6 numéro 2. Nuance Jean-Philippe Zeta, mais oui, j'ai exercé des responsabilités importantes au sein du groupe Servier, poursuit le prévenu. Il m'appartient d'assumer ces responsabilités devant vous, les victimes, mais j'entends préciser ce qu'elles étaient réellement. 66 ans, cheveux poivrés sel, costume sombre, Jean-Philippe Zeta est médecin de formation, un homme plutôt affable, déférent, avec un sens de la répartie tout en retenue, voix précise et ferme quand il s'agit d'expliquer les caractéristiques chimiques des produits pharmaceutiques, mais un ton en dessous, plus hésitant pour reconnaître « nous n'avons pas accordé assez d'importance au cas chiche », du nom de ce cardiologue qui signale en 1998 une première pathologie valvulaire après la prise de Mediator. Il faudra attendre 2003 et un nouveau cas espagnol, celui-là, pour que le laboratoire prenne le taureau par les cornes. Et il est évident, reprend Jean-Philippe Zeta, que nous l'avons fait trop lentement, pas assez, certainement. « Qu'est-ce qui vous a empêché de lancer une étude ?» intervient la présidente. « Il aurait fallu être un peu anarchiste, s'asseoir sur l'avis des autorités, risque le prévenu. C'est lui aussi qui rédige en 1999 une note de référence destinée en interne à tous les collaborateurs du groupe et qui doit constituer la seule réponse à toute question relative au métabolisme du Mediator. Jean-Philippe Zeta se défend de toute intervention délictuelle de tromperie. Selon lui, le texte ne devait servir qu'à éviter les déviations d'usage du Mediator. Expliquer par exemple que le médicament ne faisait pas perdre de poids. Dans les faits, on sait qu'il a été très souvent prescrit dans cet objectif-là.
On est à la veille d'un important colloque de réflexion sur la finance verte et durable, le Climate Finance Day, organisé à Paris. C'est l'occasion en général pour les banques de faire des annonces sur leurs engagements en matière d'écologie. Deux ONG, les Amis de la Terre et Oxfam, sortent un rapport qui dénonce les effets de communication et le rôle joué par les lobbies de la place financière parisienne pour freiner toute forme de régulation publique. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Ces deux ONG demandent au gouvernement de légiférer dès 2020 pour forcer les banques à se verdir.
Oui, alors en 2018, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d'investissement des quatre principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE, dans le secteur des énergies fossiles, ont atteint plus de 2 milliards de tonnes, soit 4 fois et demi les émissions de gaz à effet de serre de la France cette même année, accusent donc les deux ONG dans cette étude. Alors avec de tels chiffres, peut-on dire que les banques françaises luttent réellement contre le réchauffement climatique et œuvrent pour respecter les accords de Paris? Eh bien concrètement, les établissements bancaires ont pris ces dernières années divers engagements pour se désinvestir progressivement de secteurs tels que le charbon, le tabac ou encore les sables bitumineux. En effet, le Crédit Agricole, depuis juin 2019, ne finance plus aucun projet lié au charbon, une position plutôt vertueuse, estime Oxfam, mais dommage que cela ne soit que sur le charbon. BNP Paribas, lui, par exemple, s'est engagé sur le pétrole et le gaz de schiste, mais en attendant, les unes et les autres continuent de financer des entreprises qui œuvrent donc dans les centrales de charbon et autres activités polluantes. Pourtant, du côté du gouvernement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a un an, se voulait plutôt offensif et déclarait que si les banques françaises n'arrêtaient pas de financer des entreprises polluantes, l'État mettrait en place des normes contraignantes. Quelques mois plus tard, le ministre les convoquait pour leur demander un calendrier de sortie du charbon. Le ton était donc devenu beaucoup plus consensuel et la décision beaucoup moins offensive, comptant évidemment sur l'autorégulation des banques. Autant demander aux pyromanes d'éteindre l'incendie, jugent les ONG. Il faut dire que le lobby bancaire en France est très puissant. Oxfam rappelle qu'en 2018, les banques et leurs représentants d'intérêts ont déclaré près de 10 millions d'euros pour influencer les décideurs nationaux, avec pas moins de 95 lobbyistes, sans parler de l'interdépendance entre banquiers et décideurs, les fameuses portes tournantes qui fonctionnent à plein régime, ces hauts fonctionnaires donc de l'État qui passent dans le secteur privé, puis vice-versa. Dernière en date, la présidente du principal lobby bancaire, la Fédération française bancaire, qui est revenue à Bercy comme secrétaire générale des ministères à Bercy.
Merci Annabelle Grelier. tous les préfets de France réunis place Beauvau pour un séminaire contre l'islamisme et le repli communautaire. Après avoir ciblé 15 quartiers particulièrement touchés par ces phénomènes, Christophe Castaner souhaite étendre son plan de lutte à tout le territoire. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur demande aux préfets de combattre l'islamisme et le communautarisme qui, selon lui, sont des atteintes graves au pacte républicain.
Oui, l'heure n'est plus aux pudeurs et aux faux-semblants, lance d'emblée le ministre de l'Intérieur aux préfets.
Disons-le franchement, la radicalisation et le terrorisme sont des symptômes les plus graves d'un mal plus profond qui touche nos quartiers. Je veux parler de l'islamisme et du communautarisme.
Et Christophe Castaner veut effectivement mettre les préfets au cœur de cette lutte contre ces phénomènes.
J'attends de vous une action résolue, ferme, déterminée. Je vous demande d'en faire une mission prioritaire et de la garder invariablement en tête. Dès qu'il existe des doutes sur un lieu ou sur une association, je vous demande de ne pas hésiter à réaliser des inspections. Et si des manquements sont établis, je vous demande de décider des fermetures administratives, sans hésiter.
Dans les 15 quartiers où ce plan de lutte est déployé depuis près de 2 ans maintenant, 133 débits de boissons ont été fermés, 13 lieux de culte, 4 écoles, 9 établissements culturels mettent en avant Beauvau. Pour passer à l'étape supérieure, Christophe Castaner réclame l'ouverture d'une cellule dédiée par département.
Cette cellule devra travailler en liaison avec les groupes d'évaluation départementale et aura pour mission d'avoir une connaissance parfaitement fine des réseaux sociaux, des réseaux économiques, religieux, sportifs et culturels et des personnes suivies au titre de la radicalisation à caractère terroriste. L'idée est claire, avoir une cartographie précise et savoir les lieux que nous devons suivre, contrôler et sanctionner.
Le ministre de l'Intérieur fait des préfets des vigies républicaines. Toutes les options vous sont ouvertes, a déjà promis Christophe Castaner aux hauts fonctionnaires, toujours réunis en ce moment, place Beauvau.
Merci à vous, Rosalie Lafarge. Les municipales à Marseille, le maire sortant Jean-Claude Gaudin, qui ne se représente pas, appelle le dissident de droite Bruno Gilles à retirer sa candidature. Celui-ci n'a pas obtenu l'investiture LR, mais souhaite malgré tout, pour le moment, continuer sa campagne. C'est Martine Vassal qui se présente pour les Républicains. Jean-Claude Gaudin craint une victoire du Rassemblement National menée par Stéphane Ravier. Il est crédité dans les sondages de 21% environ. Invité de la séquence interview de ce journal, le politologue Jérôme Sainte-Marie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut PollingVox. On va parler avec vous du gouvernement qui se prépare à la grève générale du 5 décembre prochain. On sent une certaine fébrilité chez Édouard Philippe qui multiplie les initiatives à 7 jours de ce mouvement. On a l'impression que l'exécutif cherche encore la bonne stratégie à adopter.
Oui, apparemment, les hésitations gouvernementales tiennent beaucoup plus à la communication avant cette journée qu'au fond du projet. Il semblerait quand même qu'un axe assez déterminé qui vient essentiellement de l'Élysée plus que de Matignon a été choisi. Inversement, il y a des hésitations sur la réforme et sur sa communication plus précisément, puisque il y a deux tentations en fait. Soit d'assumer cette réforme et de prouver à la base du macronisme que le gouvernement ne fléchit pas et au fond est plus déterminé que ne l'étaient ses prédécesseurs, notamment celui de Nicolas Sarkozy. Ça c'est important parce que à l'époque de François Fillon, Nicolas Sarkozy, c'est important par rapport aux nouveaux électeurs qui ont rejoint La République En Marche. Mais d'autre part, ils essayent quand même de, au sommet de l'État, d'empêcher une mobilisation trop massive et dont toute la communication depuis quelques jours porte sur les régimes spéciaux. Or, cette réforme, il faut le rappeler sans cesse, cette réforme concerne un peu les régimes spéciaux, mais concerne l'ensemble des retraités.
Rosalie Lafarge du service politique.
Vous le disiez, on a l'impression qu'il cible les régimes spéciaux avec peut-être cette volonté de faire du 5 décembre une espèce de journée des privilégiés, entre guillemets. C'est risqué?
Ce qui est risqué, si vous voulez, c'est d'envoyer un message qui ne sera pas cru par l'opinion. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus en 1995, aujourd'hui, la cause des cheminots, par exemple, n'est pas une cause très populaire. Je prends un exemple. Si vous prenez un sondage qui a été fait par l'IFOP, savoir quelle était l'attitude des Français par rapport à cette journée du 5 décembre. Les deux tiers considèrent justifiée cette mobilisation. Justifiée, ça ne veut pas dire qu'ils vont y participer. Mais ils disent que si les gens se mobilisent, c'est qu'ils ont des raisons pour le faire. Inversement, il n'était que 44% à trouver justifié la mobilisation des cheminots, il y a quelques mois. Donc évidemment, si on réussit à persuader les Français que ça ne concerne que quelques régimes spéciaux, Ce qui est déjà un sujet compliqué, parce qu'au fond, les Français trouvent que ce n'est pas totalement anormal que les policiers, par exemple, aient un régime spécial de retraite. Donc déjà, c'est un peu confus, mais pourquoi pas? Mais j'ai bien peur quand même que l'opinion, à travers ce qu'elle entend dans les médias, ce qu'elle voit sur Internet, par rapport à cette question du permis à points, est quand même une question assez simple à saisir. J'ai bien peur que, pour la plupart des Français, c'est une réforme dont ils se savent concernés quand ils sont actifs. Et donc, si le gouvernement en fait trop sur la question des régimes spéciaux, il risque de perdre davantage de crédibilité.
On a l'impression aussi que le président semble laisser Édouard Philippe en première ligne sur ce dossier. Ça, c'est plutôt malin de sa part.
Vous savez, on est quand même encore assez loin du 5 décembre. Et d'ailleurs, il y aura le 5 décembre, mais il y aura aussi le 7 décembre, qui est le samedi qui suit le jeudi, donc ça ne va pas changer. Et le samedi, c'est plutôt le jour des Gilets jaunes. Donc l'une des grandes questions, c'est de savoir s'il y a une jonction qui se fait dans la rue entre les salariés du public essentiellement qui vont manifester, ou des entreprises ayant des statuts très particuliers qui vont manifester, faire grève le 5. Est-ce qu'il y a une jonction dès le 5 ou bien le 7, avec le public gilet jaune, qui est essentiellement des travailleurs pauvres du secteur privé. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Évidemment, si ça se faisait, nous basculerions dans une crise sociale et politique importante, et ça serait le moment pour le président de la République de jouer, d'apparaître. C'est assez normal qu'il y ait un partage des tâches pour l'instant.
Alors vous signez aux éditions du Cerf un livre qui s'appelle « Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme », avec cette idée d'un bloc élitaire autour d'Emmanuel Macron qui a fait naître un bloc populaire. Ça veut dire quoi? Que contrairement à ce qu'avancent certains de vos collègues politologues, la société française se polarise plus qu'elle ne s'atomise?
Oui, bien sûr, je lis beaucoup de choses, y compris l'excellent livre de Jérôme Fourquet sur le thème de la fragmentation ou de l'archipélisation, mais c'est une question qui ne me paraît pas déterminante en réalité dans les comportements électoraux. Il y a effectivement des phénomènes de séparatisme, on le sait bien, mais pour l'essentiel, vous avez une cristallisation du débat politique depuis 3 ans à peu près, depuis la campagne présidentielle, entre d'un côté ce que j'appelle le bloc élitaire, c'est-à-dire l'élite, les cadres et une partie des retraités, derrière Emmanuel Macron, sur un projet libéral, pro-européen, et de l'autre, vous avez une cristallisation plutôt de la France d'en bas, celle qui s'est retrouvée sur les ronds-points et sur les Champs-Élysées, ou qui en tout cas a soutenu tout cela.
Mais c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir qui a fait naître ce bloc populaire ?
Ah, je crois que cette... comment dirais-je, Emmanuel Macron a rempli un espace qui lui préexistait. C'était l'effondrement du clivage gauche-droite, et on savait que face à Marine Le Pen, il y avait une opportunité pour une forme de réunification idéologique et sociale de la France d'en haut. Désormais qu'il est au pouvoir, je pense qu'effectivement il y a un effet de symétrie, un effet comment dirais-je, une forme de pédagogie du conflit social qui entraîne la montée de ce bloc populaire qui se traduit, j'ai pas le temps de le développer, mais c'est pas cette notion de bloc, c'est pas uniquement une notion électorale, mais ça se traduit quand même notamment par la montée de celle qui est désormais la principale porte-parole de ce bloc populaire du fait de l'effondrement de la France insoumise, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui est désormais dans les sondages d'intention de vote de second tour à 45%.
Alors vous avez été l'un des premiers à théoriser la fin du clivage droite-gauche, vous l'évoquiez, c'était en 2015 dans le Nouvel Ordre démocratique. L'élection d'Emmanuel Macron vous a quelque part donné raison, et le macronisme, c'est ce que vous dites, n'est pas un épiphénomène. En quoi est-il durable ?
C'est très durable parce que c'est une réunification tout à fait logique, finalement, au niveau de la politique intérieure, des gens qui s'étaient déjà réunis lors du référendum de 2005 sur l'Europe. Je pense qu'effectivement, il y a une profondeur dans le projet d'Emmanuel Macron. C'est pas un truc de communication, contrairement à ce que disent certains qui sont encore attachés au clivage de gauche-droite pour se rassurer. C'est une réunification à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau politique, avec des gens qui viennent de la gauche et de la droite, qu'on voit dans le groupe En Marche ou au gouvernement. C'est une réunification idéologique avec le rapprochement du libéralisme culturel ou du libéralisme économique. Et enfin, peut-être même surtout, c'est une réunification sociologique. C'est ce que j'appelle tout simplement la réunification de la bourgeoisie. Donc ces gens-là ont un projet commun. Ils étaient séparés pour des raisons un peu artificielles et qui avaient un fondement historique mais qui s'était dissipé. Et désormais, ils ont décidé de gouverner pour eux-mêmes et par eux-mêmes, avec cependant la promesse, et pourquoi pas, que cela profite finalement à tous.
Est-ce qu'Emmanuel Macron, du coup, est le bon candidat pour le bloc élitaire en 2022, par exemple ?
Je crois qu'il incarne à lui seul cette réunification, y compris dans son parcours professionnel. C'est au fond la haute fonction publique et la haute finance. Mais il est très clivant, comme on dit. Il parie à peu près toute sa mise politique sur le fait que les Français ne voteront jamais majoritairement pour Marine Le Pen ou quelqu'un qui représenterait, disons, cette mouvance. C'est un pari qui apparaît de plus en plus, risqué, y compris à ses propres soutiens. Mais il est président de la République, donc il ne peut, s'il décide de se représenter, je ne vois pas ce qui pourrait l'en empêcher.
Merci à vous, Jérôme Sainte-Marie, et merci également à Rosalie Lafarge. J'ajoute que vous êtes l'auteur, Jérôme Sainte-Marie, de l'ouvrage intitulé « Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme » paru aux éditions du CERF. Cet après-midi, temps pluvieux sur la majeure partie du pays. Seul le sud-est profitera d'un soleil dominant. Température douce et homogène, 9 à Nancy, 12 à Paris, 17 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Pomé.